France Musique. France Musique, les grands entretiens. Laurent Villarem.
Je m'appelle David Grimal. Je suis né le 9 février 1973 à Châtenay-Malabry. Et je suis violoniste et chef d'orchestre, pas comme les autres.
David Grimal a essayé de se mettre dans la peau de vous, allant vers les pyramides de Gizeh à 5 ans. C'était quel genre d'enfant ? Parce que moi, je vous vois rebelle déjà, je vous vois impatient.
Certainement, oui, j'étais impatient, j'étais brouillon dans mon travail, c'est-à-dire que je voulais que les choses aillent vite. Mais si je me souviens, c'est un âge où j'ai réappris à jouer du violon à zéro quand j'avais 14 ans. Parce que j'avais pas vraiment eu d'école, comme on le disait, et donc j'avais pris des défauts qui m'empêchait d'aller plus loin. Alors, je m'étais présenté au Conservatoire de Paris, j'avais passé le premier tour. Pour rentrer au Conservatoire de Paris, c'est un concours très difficile. Et j'avais pas passé le deuxième. Bon. Puis je m'étais représenté à 15 ans, et puis, rebelote. Et je me souviens, j'étais allé voir Régis Pasquier, j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, etc. Bon, j'étais vraiment très en colère. Puis Régis, qui est quelqu'un de très gentil, qui a du mal à dire les choses, parfois les choses vraies, de peur, de blesser, m'a dit, écoute, tu m'énerves, en fait, t'es pas rentré, parce que t'as un son pourri et t'as un vibrato de merde.
Ah bah ça fait plaisir.
Et donc je suis reparti, j'ai dit, très bien, bon, je suis reparti, et j'ai réappris à jouer du violon à zéro, c'est-à-dire que j'avais une position qui était très mauvaise, avec laquelle je pouvais rien faire de mieux, et donc il a fallu que je change complètement la position, ce qui est très difficile en fait, parce que ça veut dire qu'on rentre en conscience. Tout ce qu'on faisait de manière intuitive, on le déconstruit et on est obligé de tout reprendre en conscience. Une forme de rééducation, c'est une rééducation. Et que j'ai fait seul pendant un an. Et là, j'ai appris la patience et la détermination. Et je crois que c'est peut-être là, en fait, que, parce que j'ai touché le fond d'une certaine manière, c'est peut-être là que j'ai mis les fondations de ce que j'allais devenir.
Donc vous avez réussi à avoir un son lumineux.
Je ne sais pas, en tout cas j'ai réussi effectivement à réapprendre les choses correctement et je suis rentré l'année suivante, donc à 16 ans.
Régis Pasquier, c'est la personne importante à ce moment-là pour vous ?
Absolument. Régis m'accompagnait depuis que j'avais 14 ans et puis on a travaillé ensemble, puis on a joué beaucoup ensemble après. Il m'a mis le pied à l'étrier en France lorsque j'étais jeune violoniste et donc on a partagé la scène aussi. Et beaucoup de moments très heureux.
Quand vous êtes arrivé à Antony, est-ce que vous avez connu des amis, la sociabilité, ou vous étiez plus un adolescent encore solitaire ?
Non, j'étais encore enfant quand j'étais à Antony. L'adolescence, c'était une autre, c'était ailleurs. Mais j'avais des copains, justement, quand j'allais jouer au tennis. Et c'est justement là que je pouvais enfin sortir, peut-être, effectivement, de cette tour d'ivoire intellectuelle un peu décalée dans laquelle j'étais.
Parents se sont séparés rapidement ou
Non, quand j'avais 18 ans, donc au bout de 23 ans de route ensemble.
Ça a été une décision commune ?
Ça a été quelque chose de très douloureux, de très compliqué, de très mal vécu.
Est-ce que les souffrances familiales, ça a été une vraie difficulté pour vous ? Est-ce que ça vous a constitué ?
Oui. Bah, ça a été un traumatisme. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'enfants dont les parents divorcent. Ça se passe plus ou moins bien. Quand ça se passe aussi mal, c'est sûr que ça laisse des traces chez moi comme chez ma sœur.
c'est pour ça que je joue avec les dissonances, l'idée de recréer du lien. Est-ce qu'il y a cette idée que quelque chose est à reconquérir, à renouer peut-être?
Je ne sais pas si ça c'est lié vraiment à la cellule familiale. Si on veut faire de la psychanalyse, je dirais que les dissonances c'est peut-être lié plus à l'isolement en tant qu'enfant, en étant jeune, par rapport à d'autres enfants. La cellule familiale, ce qui est difficile, c'est de reconstruire une famille après, pas un orchestre. Et cet orchestre n'est pas une famille pour moi. Les choses sont très claires. Je ne pense pas que ce soit lié directement.
Mais en tout cas, dans vos entretiens, il y a souvent l'idée que vous avez une peur de l'absence de lien entre les gens, une peur de la rivalité, comme si c'était un milieu dur, là, les musiciens classiques, les musiciens solistes, que c'est un milieu compétitif.
Mais c'est pas ça, c'est pas que j'ai peur de la rivalité. La rivalité, les rivalités, elles existent toujours. Malgré moi, je suis au cœur, effectivement, d'une rivalité depuis l'âge de 16 ans, que je trouve absolument inintéressante et dont j'ai pas du tout envie de parler. Mais la compétition entre les gens, ou entre les pays, entre les entreprises, qui amène au conflit, en général, c'est une manière assez primitive de vivre ensemble. Peut-être il y a quelque chose d'autre à inventer. Dans la musique classique, il y a beaucoup de verticalité, et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux en réalité. Des solistes qui se promènent tout seuls, tout le temps, qui souffrent de ça, qui disparaissent en général, pour la plupart, au bout d'un certain nombre d'années d'ailleurs, du marché, parce qu'ils sont épuisés, et ils ont du mal à construire une vie personnelle, ce qu'on peut vraiment tout à fait comprendre, dans la mesure où, quand on est 3 fois par semaine dans un avion ou dans un hôtel, dans une ville différente, c'est un peu difficile de créer une famille. Des musiciens d'orchestre qui sont démobilisés au bout de quelques années parce que ils ont l'impression un tout petit peu de jouer juste leur partie, donc de pas être mobilisés en tant qu'artistes. Et donc c'est vrai que c'est un milieu qui est peut-être un peu sclérosé et qui mériterait de se redéfinir selon des critères peut-être différents de celui de la rivalité, de la compétition et de la performance.
À 19 ans, vous songez à arrêter la musique, vous entrez à Sciences Po.
Oui, je suis allé à Sciences Po. En fait, j'ai pu aller à Sciences Po parce que j'avais eu mon baccalauréat avec mention très bien, ce qui était les avatars de ma famille. Il fallait bien quand même que ça serve à quelque chose, d'être d'une famille d'intellectuels.
Ah oui.
Et donc, j'avais aucune difficulté de ce point de vue-là. Et donc, je ne devais pas passer le concours d'entrée à Sciences Po et j'avais gagné un prix international en violon qui payait les frais de scolarité.
Donc vous étiez un petit génie.
Ben, je ne sais pas. En tout cas, je suis allé à Sciences Po. Et je suis allé un petit peu écouter les cours, et j'étais en quête de sens, hein, tout simplement. Mais c'est ça, c'était certainement dû aussi à ce que je vivais d'un point de vue familial, quête de sens, d'un sens à tout ça.
C'était quoi l'atmosphère à Sciences Po? On apprend quoi d'ailleurs à Sciences Po?
Je sais pas, je suis pas resté suffisamment longtemps pour vous dire tout ce qu'on apprend. J'y allais très peu, j'y allais 4 fois par semaine aux conférences de méthode, qui duraient 1h30, avec mon violon sur le dos, une feuille pliée en 4 dans la poche et un stylo, et je faisais aucun devoir, je ne faisais rien en réalité, parce que j'avais des concerts, j'étais au conservatoire, donc j'y allais vraiment juste pour voir. Et donc c'était drôle, parce que j'avais des professeurs. Il y en avait qui ne pouvaient pas comprendre que je fasse ça, ils me disaient, mais vous ne comprenez pas, vous êtes l'élite de la nation, mais comment vous pouvez vous comporter comme ça pour faire de la musique, c'est ridicule. Et puis un autre qui me disait, mais fuyez cette école, allez faire de la musique, vous êtes dans un chemin merveilleux, etc. Donc c'était assez marrant. Et puis j'ai fait des rencontres sympathiques de personnalités qui m'accompagnent toujours aujourd'hui.
Par exemple?
C'est là que j'ai rencontré Eric Garando, qui est le président des Dissonances. Et on est toujours amis et on a construit les Dissonances ensemble. Donc j'y suis pas allé pour rien à Sciences Po.
Partout où vous alliez, vous étiez différent. Par exemple, là, vous étiez à Sciences Po avec votre violon sur le dos. Est-ce qu'il y a toujours chez vous une volonté un petit peu pas de... C'est inconscient peut-être, de se différencier, de faire un pas de côté?
Non, il n'y a pas... Non, aucune volonté. Je crois que je recherche quelque chose, une forme d'authenticité, de résonance. Je ne sais pas, mais il n'y a aucune volonté de ma part d'être différent, parce que je crois que dans ma manière de jouer, il n'y a rien d'extravagant. ni de me présenter, enfin, non.
Et à quel moment vous avez senti que vous aviez un talent hors norme, ou que vous pouviez devenir un grand soliste? Vous êtes rendu compte très vite, on vous l'a dit?
Non, pas du tout, en fait. Comme j'avais eu ces échecs quand j'étais jeune, et puis que j'avais pas travaillé quand j'étais petit, j'ai jamais imaginé, en réalité, que je pouvais être soliste. Absolument jamais. Donc, je réalise à peine aujourd'hui, en fait, que je n'ai pas rien fait dans ma vie. Donc, j'ai jamais eu ce sentiment-là, en fait. Et je ne l'ai toujours pas, d'ailleurs.
Et vous n'arrivez toujours pas à vous dire que vous êtes soliste?
Toujours pas, oui. Pour ça, quand on me demande de me présenter et de dire que je suis violoniste, j'ai du mal à le croire.
Non, vous êtes un chef d'orchestre, pas comme les autres.
Voilà, ça m'aide.
France Musique, les grands entretiens de David Grimal.
Philippe Hirschhorn, c'est peut-être à ce moment-là que vous l'avez rencontré, c'est en quelle année?
Oui, c'est à ce moment-là, oui.
Donc Hirschhorn, c'est un violoniste qui vient de Lettonie, qui a gagné en 67 le concours Reine Elisabeth, devant Gidon Kremer d'ailleurs. Selon Micha Majski, qui est également letton et qui vit aussi à Bruxelles, tout comme Hirschhorn vivait à Bruxelles, ce dernier avait une sorte de puissance mystique et ensorcelante dans son jeu, quelque chose de presque angoissant, car avec une volonté d'atteindre l'inatteignable.
Absolument. Ça a été pour moi une rencontre totalement déterminante. En fait, j'étais parti le lendemain de mon prix au Conservatoire de Paris. Donc au Conservatoire de Paris, quand on termine, on fait un récital, puis on vous donne un prix. Enfin, à l'époque, on donnait un prix, maintenant je crois que c'est un diplôme. Et le lendemain, avant les résultats, j'étais en Hollande pour faire une masterclass avec Victor Liebermann, qui était un violoniste, qui était le violon solo de l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, et dont on disait que c'était un très grand prof. Donc, je suis allé. Et Philippe Hirschhorn donnait des cours dans la salle à côté. Mais Philippe Hirschhorn, il avait une photo qui me faisait peur sur le prospectus, et puis il avait gagné tous les concours internationaux, ça me faisait très peur, donc j'étais pas allé avec lui. Donc je joue pour Victor Liebermann. Bon, rien de spécial. Et puis je vais dans la salle, juste à côté. Je me souviens, c'était au conservatoire d'Utrecht. Et je rentre dans la salle de Philippe Hirschhorn. J'ouvre la porte. Je vois un violoniste qui joue, qui s'arrête, et Philippe Hirschhorn se retourne. Donc je vois ses yeux. Et tout d'un coup, j'ai eu un frisson. Je ne peux pas vous dire, c'est inexplicable. Je suis allé m'asseoir, dernière chaise, là où sont les cancres, à côté du radiateur, et j'entends, à l'époque, c'était Marco Rizzi, qui est un violoniste italien, qui rentrait du concours Tchaïkovski, où il avait remporté un des premiers prix, qui jouait le concerto de Brahms. Bon. Il joue très bien, il est devenu un grand professeur aujourd'hui, Marco Rizzi, il est professeur à la Reina Sofia, etc. Bon. Il joue son concerto de Brahms, très bien. Et puis là, Hirschhorn se lève, je me souviens mais de tous les gestes. Il prend son violon qui était posé sur un Steinway, un grand Steinway, il prend son violon, je vois ses mains, des grandes mains, magnifiques, il prend son violon, et il joue les premières mesures du concerto de Brahms. Et là, c'est comme si j'étais passé à travers le mur, en fait. C'est-à-dire que j'avais été projeté par quelque chose que j'ai jamais vu, imaginé, et que j'avais littéralement traversé le mur. J'ai absolument pas compris, en fait, ce qui se passait. Mais, de ce jour-là, ma vie a changé. Et c'est comme si quelqu'un avait réussi à percer la glace, à brûler, en fait, la gangue de glace dans laquelle j'étais. Et donc, je voyais devant moi un violoniste qui était beaucoup plus qu'un violoniste, qui avait Baryshnikov et Nureyev à la place des mains, et qui était la réincarnation de Schubert ou de Schumann, et qui jouait d'une manière absolument invraisemblable. Et si j'ai toujours dit, si jamais j'avais rêvé de violon un jour, ce qui m'était jamais arrivé, je n'aurais pas eu la force dans mon inconscient de rêver ce que j'ai vu là. Et donc à partir de là, Je crois que mon destin a été scellé.
Vous comprenez ce qui fait la magie Hirschhorn, ou ça reste inexplicable?
C'est sa personnalité, c'est l'incandescence de sa personnalité, une forme de génie, hein. Là on peut parler de génie vraiment, d'hypersensibilité, d'une intelligence prodigieuse, quelqu'un qui parlait toutes les langues évidemment, qui jouait du piano de manière extraordinaire, et puis probablement chez lui un bagage aussi, parce qu'il était né en 1946 de mère allemande et de père juif à Riga, il faut imaginer ce que c'est quand même, comme destin. Il était certainement porteur de quelque chose de terrible, dans lequel je me reconnaissais. Et puis, il avait cette authenticité totale, de quelqu'un qui ne mentait absolument sur rien.
Jane Janssen est avec vous son autre grand élève. Elle disait de lui que c'était un musicien électrisant, capable de mettre ses élèves sous haute tension.
C'est vrai. Oui, forcément, il nous emmenait là où il était, hein. Donc c'était l'enfer. Donc c'était vraiment soleil noir aussi. Hein. Évidemment, quand on est comme ça, si sensible à la beauté, on est aussi sensible à tout ce qui ne va pas. Donc c'est quelqu'un qui souffrait énormément et on était forcément pris dans cette souffrance également. Mais peut-être que Janine, qui était plus jeune et qui a cette vitalité extraordinaire et ce rapport très animal avec la musique, avec le violon, a-t-elle été moins entamée que moi par ça? Je crois, en tout cas.
Mais elle dit malgré tout, Hirschhorn lui demande de jouer la même phrase de 5 manières différentes. Donc elle joue 5 phrases et il dit que tout cela se ressemble et il redemande, essaye de faire quelque chose de vraiment différent. Joue là comme si tu la ressentais vraiment. Est-ce que vous reconnaissez Hirschhorn?
Bien sûr, oui. Il allait au tréfonds de l'âme, c'était pas un prof de violon. Il aurait très bien pu faire ça avec un acteur... Avec un peintre, avec un architecte, mais ça, avec un philosophe.
Ça se traduisait comment? Il vous parlait? Il vous...
Bah, il nous poussait jusqu'à ce qu'on craque, quoi. Moi, je me souviens d'un cours à côté de Prague, dans un château, où on était dans une masterclass pendant 15 jours, sur une sonate de Mozart, pendant 2h30 sur une phrase. Je suis sorti, j'ai mis mon violon dans la boîte, parce que j'allais lui fracasser sur la tête. Je suis sorti de la chambre en tremblant. Je le croisais dans les couloirs, je ne le regardais pas pendant 3 jours. Je ne pouvais plus supporter. L'intensité, l'exigence, ça devenait fou en fait. Et c'était une forme de folie. Alors c'était peut-être la limite d'ailleurs de l'exercice, mais toujours est-il que la beauté extrême et vraiment l'incandescence en fait avec laquelle il vivait sa musique reste pour moi une source bénéfique.
Mais ça reste lié un peu à la souffrance, malgré tout.
Parce que chez lui c'était lié à la souffrance. Moi j'ai beaucoup de plaisir à jouer. J'adore jouer.
C'est le documentaire de Bruno Mont-Saint-Jean sur Richter. À la fin, ça se termine, il dit « La vérité, c'est que je ne m'aime pas moi-même. » Et Hirschhorn disait la même chose. C'est un peu idiot comme question, mais et vous-même, David Krimal, est-ce que vous vous aimez bien ou pas?
je sais pas. Je sais pas si on est dans un monde avec tous les réseaux sociaux, la communication est extrêmement narcissique en fait, et où on est beaucoup sur l'image. Et je pense que la place d'un interprète n'est pas celle-là. Je pense, comme Stanislavski le dit pour l'acteur, que l'acteur doit incarner le personnage, mais le personnage ne doit pas être réduit à l'acteur. Nous devons, je pense, d'être des serviteurs de quelque chose qui nous dépasse. Donc je ne suis pas très à l'aise avec ce culte de la personnalité qui est développé sur la surface des choses. Moi, je me considère à la surface des choses, mais j'ai la chance de pouvoir aller dans les profondeurs. Donc je ne diminue pas le travail que ça représente. Ça représente le travail d'une vie, de pouvoir comprendre un grand texte, de pouvoir le restituer dans sa substance. Mais je ne suis pas à l'aise avec cette société de la communication où il y a ce culte des apparences. Donc, je ne suis pas dans ce narcissisme-là. Peut-être dans une autre forme de narcissisme, mais pas dans celle-là.
En tout cas, Hirschhorn a refusé de collaborer avec Ariane, parce qu'il disait qu'il avait des allures de demi-dieu.
Oui, mais alors, les histoires avec Ariane sont plus complexes. Bon, il faut quand même voir que Karajan, il avait quand même deux cartes du parti nazi. Ça dérangeait personne, mais c'est quand même un peu embêtant. Il y a un dégoût, quand même, qu'on ait le droit d'avoir de ce genre de personnage.
Donc c'était essentiellement lié à des raisons qu'on comprend trop bien. Mais est-ce qu'il y avait chez lui un refus du marketing chez Hirschhorn, justement ce culte de la...
À l'époque, c'était pas si fort. Il faut remettre les choses en perspective. On parle des années... Il a gagné le concours d'Elisabeth en 67. Son problème n'était pas le marketing. À l'époque, son problème était le communisme. Et ce qu'on faisait aux Juifs, ce qu'on faisait... l'oppression dans laquelle il était, dans laquelle sa famille était. Je crois qu'il a... Lui, il n'avait pas... C'était pas son souci, ça. Après... Quand il est parti à l'Ouest, il faut savoir qu'il est parti en 73, avant Rostropovitch, c'est un des premiers à être parti. Après, il a connu des mésaventures, mais on ne va pas s'étendre sur le sujet, c'est pas forcément le centre.
Alors je poursuis ma très légère psychanalyse, est-ce que c'était une forme de père pour vous, Hirschhorn, une sorte de vision du père?
Certainement.
Et d'ailleurs, vous l'avez suivi presque jusqu'au bout, ouais, je crois.
Oui, enfin, j'ai été présent presque jusqu'à sa mort, mais... C'était pour moi une perte, en tout cas, qui a été extrêmement difficile à vivre. Je pense qu'il m'a fallu plus de 10 ans pour arriver à supporter, en fait, son absence. Donc, clairement, il y avait un transfert qui avait été fait.
Et qu'est-ce qui vous manquait chez lui? C'était cette incandescence?
Ben, lui, quoi. Surtout, j'étais jeune violoniste, jeté dans la carrière, sans forcément toutes les armes. Et donc, oui, ça me manquait beaucoup. Et puis, lui, en fait, c'est quelqu'un que j'ai aimé énormément. Comme un père, peut-être.
Partita de Bach enregistrée en 2000, à l'aube d'une toute nouvelle période que David Grimal évoquera dans le 3e épisode des Grands Entretiens dès demain. Une émission réalisée par Gilles Blanchard, Prise de son, Laurent Macchietti. Mixage, Claire Levasseur. Attaché de production, Marie-Christine Ferdinand. Les grands entretiens sont à retrouver en podcast sur le site francemusique.fr et l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.